J'ai commencé à voyager à l'âge de 8 ans. J'ai beaucoup voyagé. Je suis devenue complètement mordue. Et puis à 21 ans, j'ai découvert que j'étais atteinte d'endométriose, une maladie chronique et invalidante. Et je pensais plus jamais pouvoir voyager comme avant. J'ai dû me réadapter. Et puis j'y suis arrivée. En 2017, j'ai proposé à un bon pote de partir en voyage. On a réfléchi à la destination et puis on a fini par choisir le Nicaragua. On a décidé de partir en 2 semaines là-bas. Personnellement, je connaissais pas du tout le Nicaragua. Je pouvais même pas le situer sur une carte jusqu'à ce que j'achète le guide. C'est un pays qui est très riche au niveau des paysages, au niveau de la culture et qui est encore pas énormément touristique, ce qui nous a permis de voyager un peu à la route et c'est vraiment ça qu'on voulait. Sauf que voyager avec une maladie, ça veut dire beaucoup d'organisation. Ça veut dire avoir une trousse remplie de médicaments qui pèse la moitié du poids du sac. Ça veut dire devoir s'arrêter, s'organiser, connaître un petit peu déjà les destinations et les hôtels où on va. Sinon, on s'en sort pas.
Bonjour et bienvenue dans Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à ceux qui voyagent. Deux fois par mois, un ou une invitée se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Aujourd'hui, je reçois Priscilla, qui nous emmène au Nicaragua. Avec elle, on a parlé de tortues de mer, on a parlé de volcans et on a parlé de dépassement de soi.
J'ai bourlingué à travers le monde. On a commencé par Las Penitas, qui est au nord du pays, sur la côte pacifique. Et c'est un endroit qui m'a beaucoup touchée parce qu'on a eu l'occasion de voir la naissance de petites tortues. Une petite tortue de mer qui faisait même pas 5 cm de diamètre, qui était juste trop mignonne. Et on a eu l'occasion de les mettre sur la plage pour qu'elles puissent partir vivre leur petite aventure. C'était vraiment un moment émouvant de voir la nature en fait comment elle marche, de voir cette plage qui s'étendait à l'horizon d'un côté comme de l'autre, un coucher de soleil juste parfait. C'était vraiment un des meilleurs moyens de commencer le voyage pour moi. Parmi les moments forts de ce voyage, il y a eu l'ascension du Cerro Negro, qui est un volcan au centre du Nicaragua. Et pour moi, c'était une excursion que j'attendais absolument, parce que j'avais vu des vidéos et j'en avais entendu parler. Le principe, on monte en haut de ce volcan avec des luges dans le dos, et puis on descend le volcan en luge. Donc c'est juste trop cool, trop drôle. Sauf que j'avais oublié un petit peu sur le moment les limites de mon corps face à ça. Donc une montée qui dure 45 minutes a duré pour nous 1 heure et demie. Ça a été un dépassement de soi juste incroyable. J'avais des douleurs, j'avais mon cœur qui battait tellement fort que j'avais l'impression que ma poitrine allait exploser. Mon pote devait me tirer avec sa perche de GoPro pour qu'on arrive à avancer un minimum. Et puis les guides comprenaient pas trop ce qui se passait, mais ils ont été quand même très très cool. Et puis on est arrivé en haut. Et là, j'avais ce paysage devant moi, des volcans d'un côté comme de l'autre. On était nous-mêmes sur un volcan, donc on voyait le cratère au milieu et c'était juste complètement fou. Et cette sensation de liberté, cette sensation d'avoir gagné une petite bataille dans cette guerre que je mène tous les jours, c'était tellement réjouissant. Ça m'a apporté énormément à ce moment-là, de savoir que j'avais réussi ce challenge qui, au début, me paraissait pas vraiment un challenge, mais une fois sur le volcan, si. Et puis là, on s'est mis dans les combinaisons, on s'est mis sur les luges et on est descendu. Et c'était juste la folie. C'est une sensation vraiment énorme. On prend beaucoup de vitesse, on se prend plein de cailloux dessus aussi, mais juste, on s'est régalé. Bon, après, on a dormi pendant bien tout un après-midi parce que c'était juste épuisant. Mais vraiment un moment crucial du voyage et dont je me souviendrai très très longtemps. Dans les autres moments hyper importants, on a fait une excursion dans une ville au sud qui s'appelle Masaya. On est allé voir un volcan de nuit et on a pu voir la lave. Alors, c'est pas aussi près qu'on peut imaginer, mais on voyait vraiment quand même la lave, on sentait vraiment la chaleur, etc., du volcan. Et là, on se sent vraiment tout petit. Moi, je me suis sentie minuscule face à la force de la nature. C'était vraiment une expérience inoubliable également parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on voit peut-être une fois, deux fois dans sa vie. Et ça nous fait vibrer et ça fait même de la chair de poule face à ça. Un autre moment vraiment phare du voyage, à mes yeux, c'était Ometepe. Ometepe, c'est une île qui se trouve au milieu du plus grand lac d'Amérique centrale. Et c'est une île qui est formée par deux volcans. Donc déjà, le paysage, il est juste spectaculaire. Après un long voyage, on est arrivé sur l'île. On a loué un quad parce qu'on avait entendu parler des routes qui étaient vraiment très complexes. Donc un scooter, ça serait pas trop passé. Et on a rejoint notre auberge de jeunesse qui s'appelait Jardín de la Vida. Et là, c'était une auberge de jeunesse très hippie, très nature. On a rencontré sur place deux Françaises avec qui on a bien sympathisé et avec qui on a fait tout le voyage sur l'île. On a vécu une expérience assez assez compliquée avec les toilettes sèches parce qu'il y avait une tarentule qui vivait dans cette petite cabane. C'est une des Françaises avec qui on était qui s'en est rendu compte. On l'a entendu crier dans tout l'auberge de jeunesse. Et on est allé voir, la tarentule, elle faisait bien 6 cm de diamètre avec des pattes toutes velues et tout. Donc vraiment pas le super délire. Donc c'était un peu l'épreuve à chaque fois qu'on devait y aller. Surtout de nuit, parce qu'on était bien à 200 mètres des toilettes. Moi, j'ai la phobie des chiens. Il y avait deux chiens dans l'auberge qui se baladaient de nuit. Donc c'est vrai que ça a été un moment un peu compliqué pendant le voyage. Mais bon, c'était quand même marrant et puis on en garde un bon souvenir. On a eu aussi une autre expérience dans cette auberge de jeunesse. C'est le matin, en se réveillant, on s'est rendu compte qu'il y avait un nid de frelons au-dessus de notre lit. On était protégés par une moustiquaire, mais qui était tombée en fait. Donc on n'était plus trop protégés. Et il se trouvait que le pote avec qui je voyageais a la phobie des frelons et des guêpes, enfin tout ce qui vole et qui peut piquer. Donc entre moi qui avait la phobie des chiens dans le camping et lui qui avait la phobie des frelons dans la chambre, on était pas dans la merde. Et bon, c'était franchement une expérience quand même à faire. On s'est bien amusé, mais sur la dernière nuit, on avait quand même besoin d'une bonne nuit de sommeil pour continuer le road trip. Du coup, on est parti sur un autre hôtel, mais on a quand même pas regretté l'expérience parce que on en a gardé un bon souvenir. Sauf le moment où on a décidé de prendre des kayaks à 4h du matin pour voir le lever du soleil. On s'était dit que ce serait une bonne idée. Personnellement, je voyage avec une Xiaomi qui est l'équivalent d'une GoPro, qui était dans une boîte hermétique. Et on prend le kayak, il y a une petite vague qui nous passe dessus, et d'un coup, je me rends compte que ma Xiaomi est au fond du kayak, complètement submergée par l'eau, et qu'elle était sortie de sa caisse hermétique, je sais toujours pas pourquoi. Donc, ma Xiaomi qui veut plus se rallumer, et sur le moment, ça m'a quand même bien refroidi, mais bon, c'était quand même sympa comme petite balade sur le lac, on a bien rigolé. Le lever du soleil, bah c'était pas non plus le plus beau lever de soleil du monde parce qu'on n'a pas vu grand chose en fait, mais bon, c'était quand même une petite excursion sympathique. Sur Ometepe, on a également décidé de faire une petite randonnée pour aller voir une cascade, une superbe cascade même, et sur le guide on voyait 2 km à faire à pied. 2 km, ça va, c'est pas grand chose, j'arrive quand même à les faire généralement. Sauf que bon, c'était 2 km dans la jungle avec un dénivelé de genre 800 mètres, et ça a été juste l'enfer pour moi. Donc une fois arrivé là-haut, ça a également été une victoire de réussir à faire un exploit pareil, même si j'ai demandé à mes potes de me laisser au bord du chemin au moins 15 fois et leur dire continuez sans moi parce que là j'en pouvais plus. Mais c'était une super belle cascade, je pense que j'en ai rarement vu des aussi grandes et aussi jolies, donc aucun regret. Surtout qu'on a pris le quad à 4 personnes, ça aussi c'était plutôt drôle. C'était tellement agréable de se retrouver entouré de nature comme ça, de pouvoir prendre une douche dans une cascade, c'est tellement agréable. J'ai vraiment aimé. Et puis c'est ce moment où j'ai tellement souffert, en fait, pendant cette randonnée, à me dire que j'y arriverais pas. Et puis, c'est bizarre comme la vie est faite, que quand je suis arrivée en haut devant cette cascade, j'étais au bout de ma vie. Mais pendant quelques minutes, les douleurs ont disparu. Et puis, j'ai juste kiffé le moment, j'ai juste respiré l'air frais. Et puis, ça m'a fait un bien fou, en fait. C'est notamment pour ça que je voyage. C'est parce que, pour moi, c'est comme une thérapie. J'en ai besoin pour mon moral. J'ai besoin de me retrouver, moi, dans le voyage et de me dépasser. Et là, c'était vraiment également un dépassement de moi-même. Donc c'était une expérience qui était vraiment, vraiment folle. On a terminé notre voyage par San Juan del Sur. Nous, on n'était pas vraiment dans un contexte de voyage, à faire des grosses soirées, à sortir, à se coucher tard. En fait, on s'est même levé quasiment tous les matins vers 6h, 6h30. Et c'était assez cool parce que du coup, on faisait des journées vraiment complètes et longues. C'est vrai qu'une fois arrivé sur place, on n'a pas vraiment aimé nos jours à San Juan del Sur. Disons que c'est une ville vraiment type spring break américain où on y est pour faire la fête. Et nous, c'était donc pas vraiment le but du voyage. Mon pote a quand même pris une leçon de surf. Mais sinon, bon voilà, on a fait un peu de plage, on s'est un peu baladé. Mais c'est vrai que le constat qu'on a fait, c'est qu'au Nicaragua, les villes n'ont pas un très très grand intérêt en réalité. Nous, on a vraiment préféré le côté nature, de voir les animaux, voilà, de vraiment et profiter vraiment des paysages qui sont vraiment fantastiques. Pour conclure, c'est vrai que c'était un super beau voyage. Je me suis régalée, j'ai pas regretté. Heureusement qu'on est parti que 2 semaines, parce que quand même physiquement, je sentais qu'à la fin, j'étais à bout, que je pouvais plus continuer. Mais j'ai surtout eu la chance d'être entourée d'un très bon pote qui me jugeait pas quand ça allait pas, qui m'aidait à tout moment, qui portait mon sac qui était 2 fois plus lourd que le sien. Et puis quand on devait faire une pause, on la faisait. Quand j'avais besoin de dormir, il me laissait dormir. Et ça, c'est vraiment très important en fait. Quand on voyage dans ces conditions-là, c'est vraiment d'être entouré par les bonnes personnes et ne pas se sentir obligé en fait de faire quoi que ce soit, faire les choses à son rythme et les faire comme on peut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte parce qu'avant, j'avais pas vraiment vécu ça comme ça.
Merci pour cette histoire. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage?
J'ai voulu parler de ce voyage et puis j'ai voulu parler aussi de la maladie quand on voyage pour essayer d'aider d'autres personnes. Que les autres personnes qui doutent d'eux-mêmes parce qu'ils sont malades et qui pensent que du coup ils peuvent plus voyager, ben leur montrer que c'est possible. C'est possible s'ils s'entourent des bonnes personnes et c'est possible de se donner les moyens. C'est juste une question d'organisation et on peut y arriver. Et ça fait beaucoup de bien. Et puis j'ai voulu parler du Nicaragua en particulier parce que c'est un pays qui est pas encore très touristique mais qui est juste superbe.
Du coup, du fait de ta maladie, j'imagine que ça doit être compliqué pour toi de voyager seul, ou au contraire, récemment, tu es parti en solitaire.
Avant le Nicaragua, j'avais fait un voyage de 2 semaines seul en Californie. Donc c'est possible, c'est juste pas la même chose. C'est sûr, quand on est seul, ben peut-être des fois on va moins se pousser, on va plus se laisser aller parce que on se dit ah oh, c'est pas grave, ça je le fais pas, tant pis. Alors quand on est à deux, bon ben on se dit bon bah ben, allez, je le fais, ça va aller. C'est pareil, c'est une question d'organisation. Donc pour réussir à s'en sortir le mieux, c'est sûr que ça peut être plus fatigant. Parce que quand on peut pas porter son sac parce qu'on a trop mal, parce qu'on est trop fatigué, et quand on est seul, bah on n'a pas le choix. Faut quand même le porter, faut quand même s'en sortir. Quand on est avec quelqu'un, on peut trouver une solution.
Moi, je dis toujours que voyager à deux, c'est le meilleur moyen d'apprendre à connaître les personnes avec laquelle on voyage. Et de manière générale, c'est hyper important pour moi de choisir quelqu'un avec qui je sais qu'il va y avoir un bon feeling pour voyager à deux. Toi, comment ça s'est fait? Tu savais que tu voulais voyager avec ce pote en particulier ou pas?
J'avais un feeling. Je sentais que j'avais envie de faire un voyage avec ce pote-là. Donc je suis allée le voir, je lui ai dit t'es chaud pour qu'on parte ensemble? Il m'a dit oui, donc tant mieux. Et je sentais que ça allait bien se passer parce que c'est quelqu'un que je connais depuis des années, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui connaît mes problèmes, qui connaît ma personnalité, qui savait dans quoi il s'engageait. Et j'avais aucun doute sur le fait que ça se passerait bien. Et ça s'est super bien passé. Des fois, on peut se tromper. Pour le coup, cette fois, je me suis pas trompée.
On va revenir avant de partir dans ce que j'appelle le prévoyage. Est-ce que toi tu as un rituel de prévoyage? Par rituel, j'entends est-ce que tu as quelque chose que tu répètes à chaque fois avant de partir? Moi personnellement, je sais que je vais souvent me renseigner sur des blogs ou même l'action d'acheter mes billets d'avion, pour moi c'est hyper important parce que c'est comme si j'étais déjà un petit peu parti. Toi, c'est quoi tes rituels?
Alors moi j'ai un rituel, c'est j'achète mon guide. J'aime bien avoir mon petit guide papier, regarder un petit peu ce que ça raconte, me renseigner par rapport à ça. Et puis généralement quand je l'achète, je me trimballe un peu partout avec mon guide et mes post-it, et je mets des post-it partout dans le guide continuellement sur les endroits que je veux visiter. Les excursions qui me plairaient bien. Ça m'arrive aussi de regarder un petit peu des vidéos YouTube, des choses comme ça pour voir un petit peu les paysages et en gros me faire un peu rêver du voyage avant d'y être.
Ok, donc tu es plus de la team de ceux qui se renseignent avant de partir et qui ont déjà une petite idée de leur itinéraire. J'imagine que du fait de ta maladie, ça doit te laisser au final assez peu de place à l'improvisation. Comment ça se passe avant de partir et comment ça se passe une fois que tu es sur place?
Alors effectivement, j'ai eu voyager plus en mode sans itinéraire, à partir comme ça et puis à voir sur place. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on fait des voyages qui ne durent que 2 semaines. Parce que bah, 2 semaines, c'est court quand même. Quand on doit parcourir plusieurs centaines de kilomètres pendant le voyage, pour moi, je trouve ça compliqué de se permettre de laisser complètement de l'improvisation. Donc oui, généralement, je prévois un itinéraire. Je regarde déjà les hôtels. Selon les saisons, c'est vrai que c'est mieux de les booker directement. Là, ça a été le cas dans les derniers voyages que j'ai eu fait. Et effectivement, j'ai besoin un petit peu de savoir que voilà, je suis sûre que je vais dormir dans un lit. Parce que dormir par terre, pour moi, c'est juste pas possible. Sinon, le lendemain, bah, je me lève pas. J'ai besoin de savoir qu'on a une destination, qu'on sait où on va, pour pas marcher pendant 2 heures dans une ville avec mon sac à dos afin de trouver un hôtel. Donc du coup, maintenant, je prépare bien mes voyages. Après, je laisse toujours de l'improvisation. Là, quand on était au Nicaragua, bah, on a voulu rester une nuit de plus à Ometepe, parce que ça nous plaisait vraiment. On l'a fait. On a changé un tout petit peu notre itinéraire. Les excursions sur place, je prévois pas tout de suite tout ce qu'on va faire. On arrive sur place, on discute avec des gens. On voit un petit peu ce qui a été fait, pas fait, ce qu'on pense qui sera le mieux, etc., ce qui nous plaît, et puis on se lance.
Tu as mentionné dans ton histoire que tu avais rencontré sur l'île d'Ometepe deux Françaises avec ton pote. De manière générale, comment tu traites ces rencontres de voyage? Est-ce que c'est des relations au final qu'on pourrait qualifier d'éphémères, même si tu vis des choses assez puissantes avec eux sur place? Ou est-ce que une fois de retour au pays, tu gardes de contact et tu les revois?
Souvent, on se rajoute sur Facebook, donc on reste un minimum en contact parce qu'on voit un petit peu comment la vie des gens évolue quand surtout ils partagent des photos de d'autres voyages ou de la continuité de leur voyage. Par contre, c'est vrai que c'est difficile d'organiser des rencontres pour se revoir. Je sais que ça me ferait très plaisir de revoir les personnes que j'ai rencontrées en voyage parce que je me suis bien entendue avec eux et qu'on a vécu un petit moment un peu spécial ensemble. Après, non, j'ai pas tout à fait gardé contact avec les gens. J'échange pas avec eux continuellement. Mais voilà. Je sais que j'ai une option de pouvoir les revoir un jour, de les recontacter. On sait jamais.
Une fois que tu es sur place, et même une fois que tu es de retour, comment tu documentes et comment tu racontes ton voyage? Est-ce que c'est via des photos, via des vidéos? Est-ce que t'as déjà tenu un carnet de bord, par exemple?
Je travaille dans l'audiovisuel. Donc, forcément, je pars avec mon appareil photo, avec ma caméra, je filme, je prends beaucoup de photos, donc je documente énormément comme ça. Généralement, je fais un petit after movie de 2 minutes qui raconte le voyage. Alors certes, je mets souvent 6 mois pour le faire, mais il finit par sortir, donc c'est le principal. Et j'ai récemment, oui, tenu un journal de bord lors d'un voyage en Chine. Je suis partie en Chine avec mon copain et on a fait un journal de bord ensemble avec des photos Polaroid qu'on prenait sur place. Donc c'était assez sympa et ça m'a beaucoup plu, donc je pense que je vais continuer à en faire d'autres comme ça.
Une fois que ton voyage est terminé et que tu es de retour au pays, comment ça se passe? Moi personnellement, je souffre de ce qu'on pourrait appeler le syndrome post-voyage, le spleen post-voyage. Je suis toujours un peu déprimé quand je rentre en France. Toi, est-ce que tu as déjà ressenti ça et comment tu te soignes, si c'est le cas?
Je l'ai eu vécu, mais plus après des retours en étant expat dans les pays. Où ça me faisait vraiment un choc. Dernièrement, sur les derniers voyages, quand je rentrais, j'étais quand même soulagée, parce que c'est quand même éprouvant pour le corps. Donc j'avais besoin de rentrer chez moi, de me reposer, et de prendre soin de moi, parce que j'ai soigné le moral, et puis après, il faut soigner le corps. Mais généralement, bon, je suis quand même contente de rentrer, de retrouver ma famille, de retrouver mes amis, mais je rentre et j'ai envie de repartir quand même quelque part. Donc j'ai toujours ma petite idée de me dire où est-ce que je vais aller après, comment ça va se passer. Et puis pour soigner un petit peu la nostalgie, je travaille sur les photos et les vidéos.
Justement, pour parler de futur, toi c'est quoi tes prochains plans, tes fantasmes de voyage, des endroits où t'aimerais absolument aller, que ce soit dans les semaines ou les années à venir?
Alors dans un futur assez proche, j'ai l'intention d'aller aux Philippines pendant 2-3 semaines avec mon copain. Moi j'y ai déjà vécu, donc je connais un petit peu. Il y a plein d'endroits que j'ai pas vus et c'est juste fantastique ce pays, donc j'ai très envie d'y retourner, aller dans toutes les îles que j'ai pas encore visitées et voir tout ça. Dans un futur un peu plus lointain, j'aimerais m'expatrier en Nouvelle-Zélande et donc du coup profiter de voyager beaucoup sur place. Mais ça, malheureusement, j'attends de me sentir mieux au niveau de ma santé, parce que aller en Nouvelle-Zélande et pas être capable de faire une randonnée, c'est quand même dommage. Donc voilà, mais c'est un objectif que je me suis fixé.
Écoute, on arrive à la fin, donc c'est à toi. Est-ce que t'as un mot de la fin, un proverbe, une recommandation à partager ?
J'ai deux recommandations à faire. La première, c'est pour les personnes qui souffrent comme moi. Sautez le pas, allez-y, et laissez pas la maladie vous bouffer de tous vos rêves et de toutes vos ambitions. La deuxième recommandation que j'ai à faire, c'est que même si vous voulez garder une partie de mystère quand vous partez en voyage, renseignez-vous sur le prix, genre des tuk-tuk, des taxis, des trucs comme ça, parce que c'est toujours pratique quand même quand on sait combien on doit payer, par exemple, pour une course, parce que moi, je sais que ne pas savoir, ça me frustre, et j'ai toujours un petit peu peur de me faire arnaquer, donc de se renseigner auprès de la communauté des autres voyageurs, moi, je trouve ça pratique.
Merci Priscilla.
De rien.
C'était Bourlingué, le podcast qui donne la parole à ceux qui voyagent. Merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en me donnant des étoiles sur iTunes ou en laissant un gentil commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner via votre application d'écoute préférée. Enfin, vous pouvez nous suivre via Instagram bourlingué.podcast. Ah, et une dernière chose, la musique que vous entendez là s'appelle « J'ai bourlingué » et elle a été composée par Serge Raphaël. Merci à lui.
C'est vrai que j'ai cherché ailleurs une partie de moi, mon bonheur. J'ai bourlingué.